Bonjour Philippe Bordas.
Bonjour.
Nous parlons de Cœur volant, roman qui sort début janvier pour cette rentrée littéraire. Première question, Philippe, que j'aimerais te poser. Ce qui tout de suite se voit, ce sont les paragraphes. Un paragraphe, un espace, un paragraphe, un espace, qui rend visible une langue, puisque chaque paragraphe pourrait être lu tel une poésie. Il y a un travail de langue, ça, c'est ton travail, effectivement, mais cette langue se voit immédiatement par paragraphe. Il y avait une volonté que la beauté des mots, la beauté de la syntaxe soit mise ensemble et immédiatement visible et non pas tout rapproché. Il n'y a pas un bloc de texte, ce sont des légers blocs de texte qui sonnent comme autant de poésie.
Oui, effectivement, il y a un découpage que j'ai toujours tenu, qui était déjà dans mon premier livre Forcené, où je me suis aperçu que je n'aimais pas écrire un bloc de texte. Et c'était une sorte d'engloutissement visuel, et dans Chant Furieux c'était pareil. Mais c'est effectivement une sorte d'infrapause pour, entre chaque phrase ou chaque paragraphe, respecter un silence ou une respiration poétique. C'est aussi, comme dans un album photo, une façon d'isoler les images, comme dans les collages d'Abby Warburg, où toutes les strates du passé se juxtaposent. C'est à la fois une écriture qui ne tend que vers la langue et une écriture qui ne tend que vers la vision. Donc je suis pris dans une double découpe. Je veux m'isoler de la langue du temps présent, qui arrive de façon compacte et continue dans la radio, la télévision et dans les romans, qui finalement sont une sorte de dilution totale de la langue, qui à la fin fait un coulis permanent. Et c'est extraordinairement rare qu'on puisse trouver une narration totalement compacte qui soit d'une densité poétique énorme, comme par exemple les grands romans latins, Diadorim de Guimaraes Rosa ou Paradiso de Les Amalima. C'est extrêmement rare. Et par ailleurs, moi, c'est surtout le fait que j'ai sans doute une réticence par rapport au roman, depuis toujours, que je suis une sorte de romancier contrarié, mais je veux, comme peut-être dans mes goûts enfantins des vignettes, des albums, opérer un récitatif par vignette accolée. J'adore ce principe. Et c'est aussi les grands moments d'extase de mon enfance, comme la tapisserie de Bayeux. Donc c'est mon côté peut-être archaïque de faire une chanson de geste qui procède par collage de vignettes, mais de haut fait. Donc c'est une façon de magnifier des choses simples. Et quand c'est vrai que j'ai jamais fait plus de 3 à 4 paragraphes par phrase. Je pense que ça correspond à un souffle intérieur. Je suis pas capable de respirer plus longtemps sans peser la langue et réajuster le focus sur toute la vision des images poétiques. C'est la question de l'image poétique, plus que de la volonté de faire poésie, parce que il y a des textes où il y a des alinéas pour faire poésie. C'est comme dans le Charlotte de Fantinos, qui a été un truc pour moi très frappant, c'est-à-dire que c'était un détournement des signes extérieurs de la poésie, alors que aucun segment, même mis à la ligne, n'a une frappe, n'a une rythmique, aucun segment n'est poétique, et c'est absolument pas ça. Je veux absolument pas me présenter comme un poète ou poétiser la page, c'est pas du tout ça.
Tu parlais des hauts faits, donc de ta manière de procéder. Dans Cœur volant, c'est les hauts faits de l'amour qui sont racontés. Cœur volant, c'est une histoire entre un narrateur, on pourrait imaginer que ça pourrait être un double de toi, et Natacha, ils se rencontrent dans une boutique de luxe, de parfums.
Oui, ça, y a un aspect évidemment autobiographique, mais plutôt qui revient dans la longue chronique, le travail de chronique que je fais, qui est plus un travail de chroniqueur, dans le sens de Céline ou de Saint-Simon. C'est-à-dire que à la fin, je ne m'inspire que de mon corps réel, un truc très héroïque, sportif, cycliste et christique, je ne sais pas, mais il est clair que là c'est plus la remise en scène du narrateur de Chant Furieux au moment crucial de l'initiation amoureuse et poétique. Et la rencontre de ces deux êtres, c'est évidemment une histoire d'amour avec tous les lieux communs et les clichés classiques, je le dis parce que c'est vraiment au sens grec, il y a des incontournables de la rencontre, de l'apparition et de la vision amoureuse, mais c'est aussi le moment où tout ce que je vais écrire procède de ce moment où j'étais illégitime à être poète ou écrivain, venant des cités, étant interdit à tout et étant bâtonné de matin à soir parce que je parlais pas la bonne langue, donc ça c'était déjà le thème de Chant furieux. Mais là, cette femme m'accepte comme je suis, et très étrangement, ce qui m'attire en elle, c'est son corps, son étrangeté, sa douceur, toutes ces choses-là. C'est aussi le fait que je sens s'écouler d'elle une matière liquide, qui est une sorte de poème à l'état liquoreux, et que par l'amour, m'approchant de sa peau et de la source du verbe, je surmonte mon illégitimité absolue à être qui que ce soit, et surtout pas un écrivain, l'amour et le contact charnel justifiant l'exercice du verbe. Donc la lettre d'amour et la louange et l'attente des mots près du corps de la femme aimée, ça a un côté extrêmement féodal. C'est vrai que je vais finir par passer de la chanson de geste à l'amour courtois, mais il y a un petit peu de ça. Il y a eu une sorte de double dévotion, d'exclusivité physique et d'attente poétique venant du même corps, en fait.
Ce sont deux êtres très très différents. Je te cite, elle se satisfait que nous soyons dissemblables. L'invraisemblance de notre liaison lui donne des ailes. C'est d'abord une distinction sociale entre les deux amoureux.
Bon, au tout départ, oui, il y a l'attirance et le choc pour deux enfants qui ont 19 et 20 ans, qui viennent de milieux contraires. La fille d'un artiste dessinateur du 6e arrondissement qui vit dans le monde de la place Saint-Sulpice et de Saint-Germain et des beautés parisiennes, et une sorte de crevard des cités qui arrive dans Paris en RER, et qui a une sorte de devers. Donc d'une certaine façon, ce serait la rencontre, si je pouvais la transposer, entre Devers et Chiara Mastroianni, qui pendant toute son enfance n'a connu que la place Saint-Sulpice, quoi. Voilà, et donc il y a tout le choc drôlatique, évidemment, du prolo nihiliste qui croit en rien, et de la jeune bourgeoise pour qui le monde est encore attente de beauté et d'épanouissement.
Et cette rencontre se situe dans un magasin de luxe, de parfums, puisque le narrateur est magasinier dans les sous-sols, caché dans les sous-sols.
En fait, ce narrateur prolétaire est une sorte de dandy smicard, c'est-à-dire qu'il a refusé la haute culture des classes littéraires pour se prolétariser. Mais se prolétariser avec la distinction qu'il exige et de la poésie et de l'exercice physique, c'est une sorte de populaire raffiné. Donc il travaille dans une parfumerie de luxe, il tient le stock et l'étalonnage de tous les parfums dans un sous-sol. Et là, il est présent parmi les essences, et il a la main sur toutes les plus belles essences des parfums. Mais donc c'est un personnage qui recherche ce raffinement. Et cette femme, il l'a rencontrée avant, mais effectivement, elle vient le chercher, l'attendre devant la parfumerie. Mais la parfumerie est le lieu des essences, donc c'est un personnage qui cherche le raffinement. Le personnage, c'est pas le voyou classique des cités qui tombe amoureux d'une bourgeoise et qui a une volonté d'ascension sociale, une sorte de Rastignac sorti de la gare du Nord. C'est plutôt quelqu'un qui est en réfutation totale des classes sociales et qui est déjà, par rapport à toute ma typologie romanesque dans Forcené, dans Chant furieux, un aristo du populo, c'est-à-dire que c'est un gamin qui s'achète des belles chaussures, qui ne veut que des beaux livres, qui vit dans une chambre de bonne de 4 mètres carrés, mais c'est une sorte de vers Byron. C'est pas du tout... il maîtrise la langue basse de son enfance, mais il est amphibie. Mais il n'est pas amphibie parce qu'il cherche à s'intégrer à la bourgeoisie. Il est sans doute fasciné par l'élégance de cette jeune femme, qui est beaucoup plus raffinée et poivrée et haute en couleur et en finesse que ses anciennes amies de la cité, qui étaient toutes en jean avec des Stan Smith et du col turquoise aux yeux. Et voilà, c'est ça aussi l'histoire. Peut-être qu'il y a une fascination sociale, c'est évident, mais il y a aussi même une fascination pour les mondes extrêmes. Parce qu'à cette époque-là, tous ses amis ont décidé de continuer les hautes études, et lui s'est prolétarisé. Donc il est entre deux mondes, il navigue entre le haut et le bas.
Oui, il y a une prolétarisation volontaire de ce narrateur. C'est très explicitement écrit que, dans sa tête, il est un prolétaire, mais volontaire. Abandon des études qui étaient réalisées, et un travail plutôt manuel de manutentionnaire.
Il y a, je pense, la dette qu'il faut payer à son milieu originel, sans trahir. Donc je pense, parce que le livre autobiographique, que j'ai fait bien d'autres boulots très durs, mais c'était pour moi, non pas de façon romantique, comme beaucoup d'écrivains qui s'embarquent sur des cargos, me prolétariser pour avoir plein de récits à Jack London à écrire un jour quand je serai à l'Académie française. C'était pas faire l'aventurier pour ensuite en tirer un bénéfice. C'était vraiment... aller au risque, aller en mer, aller jusqu'au bout de... Même, je crois, d'une curiosité sexuelle et physique pour toutes les classes sociales. C'est-à-dire que c'est ça le grand parcours de tout mon travail. C'est un travail de picaro. Bon, le picaro, c'est quoi? C'est un petit lutin du peuple qui est espiègle, naïf, sournois et faible, qui est une victime et un seigneur, et qui traverse toutes les classes sociales avec un petit miroir où il se voit et où il observe le monde. Donc moi, mon obsession, c'était peut-être un appétit énorme de tout savoir, de parler toutes les langues, et de ne pas me restreindre. J'ai toujours un très grand mépris, mais ça c'est foudroyant, pour les bourgeois qui ne parlent que leur langue et qui ne rêvent que de rester à l'académie et qui ne vont jamais comprendre les langues du bas. Et je n'ai aucun goût, même pour les enfants de ma classe qui ne pratiquent que leur langue jusqu'à la fin. Donc la limitation linguistique, pour moi, est un péché. C'est un signe de très grande faiblesse. Et je reste nietzschéen sur ce point-là et sélinien, c'est-à-dire qu'il faut avoir vu, avoir payé pour voir. Et si on n'a pas vu, on n'a rien à écrire. Et il y a un risque physique à prendre. Et le grand risque... pour un prolo, c'est d'aller dans un monde bourgeois qui est inaccessible, mais où il doit comprendre et réaliser. Et tout ça, ça se fait au nom d'un principe de réunion pour, je pense, très politiquement au fond de moi, résoudre les antinomies de la France et ne pas aller vers la guerre civile qu'on voit aujourd'hui éclater, qui est celle d'une guerre sociale et d'une guerre linguistique énorme entre le haut et le bas.
Est-ce qu'il y a une résistance à l'humiliation, c'est chez ce narrateur, il y a plusieurs anecdotes à ce sujet. Dans la famille de Natacha, lors d'un repas familial, une tante ou un oncle lui demande au personnage de parler dans sa langue de banlieue, dans la langue des cités. Il résiste, ou en tout cas au contraire, il devient cassant. Et puis il y a cette anecdote où, lors d'un dîner chez un académicien, je crois que c'est d'Ormesson, on lui propose, de moyennant finance, de ranger la bibliothèque du maître.
Ah oui, ça, bon, voilà, je peux le dire, c'est une histoire vraie. Mais je me suis retrouvé, bon, j'avais besoin d'argent, et comme c'était un petit réseau d'anciens cagneux qui m'ont dit, là, il y a un bon boulot, c'est payé, c'était royalement payé, c'était 500 francs, c'était énorme pour l'époque. Et bon, il faut montrer patte blanche quand même, parce qu'on ne rentre pas dans le sanctuaire bibliophilique de d'Ormesson comme ça. Et donc il y a un grand repas à l'époque avec des gens de sa famille, etc., pas lui, et tout un cénacle de gens qui avaient mon âge, entre 20 et 30 ans, et qui tous avaient déjà leur vie inscrite et leur génome littéraire sanctifié et mis en assurance vie, qui futur éditeur, qui déjà para-écrivain, etc. Et là, j'ai même vu déjà des espèces de fusions incestueuses, sexuelles et amicales entre tous ces gens-là, une sorte de cooptation. Et là, ça a été, là par contre, très violent pour moi, et là, c'était très sélinien, c'est-à-dire que J'ai vu ce dont je souffre encore aujourd'hui, évidemment la cooptation sociale, c'est-à-dire que la littérature française comme un monde grand bourgeois, qui se bat depuis toujours pour... l'endroit dans lequel j'étais, c'était l'endroit spécifique. Et je l'ai vu tout de suite comme le foyer central où s'élaborait le refus des deux grandes littératures qui sont pour moi les bijoux de la langue française, la littérature du bas par Céline et Villon, et la littérature aristocratique, dont quelque part d'Ormesson est le faux représentant. C'est surtout un grand bourgeois. Et la chose que j'ai vue, c'était comme dans un cauchemar historique à la Michelet, qui est quand même quelqu'un qui a vu comment la France était devenue grande par cette fusion organique entre le bas et le haut. D'un seul coup, je me suis senti perdu dans un monde qui, je l'ai senti tout de suite, niait le très bas et le très haut. Et j'ai été assez odieux, évidemment, j'ai pas eu le boulot. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a été une sorte de casse-pipe débile, comme dans... Je me suis lâché comme un pauvre Joe Star, mais à l'époque, j'étais tout maigrelé, mais j'étais très cassant, et j'en ai trop fait, j'ai été nul et ridicule, je pense, mais j'ai senti ça comme une toile d'araignée, un mouroir pour la littérature. Et aujourd'hui, j'ai 50 piges, et bien tous les gens qui étaient à ce repas-là, je ne donnerai pas les noms, sont tous en place, et produisent aujourd'hui la sous-littérature ou la littérature commerciale américanisée, qui est ce contre quoi je lutte et qui est l'extinction de la langue française. Ils sont tous au pouvoir, et ce pouvoir-là, ils l'avaient déjà pris à l'époque, et ils ont juste eu à suivre le rail sans se battre pour la langue française ni pour la France. Et ça, c'est la perception très étrangement souverainiste que moi, le môme des cités, j'avais eu à l'époque. Il faut imaginer un môme qui ne réclame pas de BM, ni d'objets du luxe consumériste comme les rappeurs d'aujourd'hui, qui réclament les preuves de grandeur à la France. C'est très étrange, parce que le mec vient des cités, on lui a dit la France c'est ça, 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 on ne voit jamais ça dans les cités. Quand on arrive à Paris, on demande des preuves de l'excellence de cette littérature qu'on a lue dans les livres, et des preuves de cette excellence sociale, de la dignité aristocratique et de la grandeur française. Donc c'est extrêmement dur d'arriver des cités en ayant lu, en ayant la perception de Charles de Gaulle et des grands résistants et de Péguy, et de se retrouver face à des gens repus et qui à l'époque déjà se préparent le grand désastre. Je viens de voter Mitterrand et j'arrive, là c'est le début du grand basculement de la France des années 82-84, où la gauche expédie ses espoirs anciens, se met du côté du libéralisme et décide de détruire le peuple, et en éliminant le Parti communiste de façon tout à fait réglée, et on se prépare à la grande diminution intellectuelle du peuple en abaissant le niveau scolaire, le bac très vite va baisser de niveau, etc. Et où d'un seul coup, dans le milieu de l'édition, c'est l'explosion totale, c'est en 84, l'explosion totale avec Françoise Verny ou ce genre de personnages qui promeuvent une littérature de consommation, chez Gallimard aussi d'ailleurs, où Pierre Michon fait son chef-d'œuvre Vie minuscule en 84 et absolument ignoré, ne vend rien, 1900 exemplaires en 2 ans. Donc, j'extrapole un peu, mais j'arrive au moment où je découvre Paris, la France et tout l'espoir politique et social que j'ai se heurte au fait que je vois cette bourgeoisie au pouvoir avec laquelle va très vite pactiser cette espèce de gauche pour laquelle j'ai voté comme tous les mômes des cités à cette époque-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'histoire d'une trahison d'un grand monde littéraire. C'est-à-dire qu'on rêve de De Gaulle et Chateaubriand, on se retrouve chez d'Ormesson, et d'Ormesson c'était juste le symbole d'un faux monnayage des valeurs aristocratiques. Il faut imaginer un môme des cités qui ne s'intéresse pas à l'aristocratie comme monde poudré, comme le baron de Charlus ou autre, mais comme le principe d'excellence. Et quand on n'a rien, eh bien le principe d'excellence reste une valeur grecque fondamentale, et si on ne la voit pas s'illustrer dans la société qu'on découvre, dans Paris, ou dans les classes qu'on traverse, ou dans les œuvres qu'on découvre à cette époque-là, c'est extrêmement dur. Et en fait, il y a une déception d'un besoin d'excellence aristocratique chez ce môme. Et se prolétariser dans les parfums de luxe est une façon provocatrice de dire « je préfère rester dans les essences matérielles ». Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il écrit au fond de son stock, comme dans la cave de Thomas Bernard, il s'isole pour protéger sa littérature dans le tréfonds, dans le terrier. Voilà, donc ce sont que des actes de refus, c'est assez nihiliste et désespéré, mais c'est émouvant aussi parce qu'il y a un espoir énorme dans la France et dans la langue française.
Parce que à cette époque, là où on prend Cœur Volant, tu es en pleine formation d'écrivain, tu es en pleine formation d'écriture, tu es en pleine formation de créateur en langue. Cette formation, on la voit doublement. On la voit quand le narrateur est avec Natacha. Il veut écrire tout de suite ce qui s'est passé. Il veut écrire l'action faite par soi. Je te cite, « J'écris le détail de ce que nous avons vécu. » Il y a d'abord cette volonté de immédiatement faire langue avec ce qui s'est vécu. Et puis, il y a un deuxième moment où Natacha a cette fausse bonne idée, peut-être même une mauvaise idée ressentie par le narrateur, de dire à sa famille que son amoureux écrit, que son amoureux veut, a la prétention d'être écrivain. Et ça fait un effet au contraire, un effet contraire, justement.
Oui, bah le culte du secret et de la clandestinité est très net chez le narrateur. Pour moi, écrire, c'est un exercice secret. Vivre dans un souterrain pour classer des parfums entouré de très belles vendeuses et me cacher, c'était mon obsession, une sorte de complot paranoïaque. Me préparer à la littérature seul, sans en parler, et avoir choisi une femme qui soit ma muse et protectrice de mon secret, m'accompagnant dans ce tunnel, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, jusqu'à ce que j'ai pu fourbir mon arme, préparer mon arme. Sauf qu'elle dilapide mon petit secret débile, et elle, instantanément, ça a été un choc, sa famille, bon, c'est une sorte de, c'est des intellectuels parisiens, mais aussi des gens parvenus un peu, donc qui viennent de sortir d'un milieu, ils arrivent directement dans le monde de l'argent, et moi je suis le repoussoir de ce qu'ils ont été, et instantanément, il y a une jalousie et une violence, mais qui vient surtout du fait que je me prolétarise, c'est-à-dire qu'en fait j'opère un grand écart qui est insoutenable pour tous les gens qui ont une prétention intellectuelle, c'est-à-dire que d'emblée, le fait que je me présente comme prolétaire et que je nourrisse un travail, un projet de complot d'écriture parallèlement, c'est interdit. Il aurait fallu tout de suite que je me présente comme les gens que j'avais vus au repas chez Dormesson, comme un jeune homme de lettres, dandy à la Byron, lisant le Figaro littéraire, aimant les hussards, etc., ou je ne sais quoi, ou alors à l'époque, ayant tout de suite affiché son raffinement. Je me présente comme un être grossier, et je dis en gros, moi le grossier, c'est moi qui vais faire une œuvre qui comptera plus que vos œuvres de circonstance. Il y a beaucoup d'arrogance hein, chez ce môme, il arrive à Paris, il est très naïf, il connaît rien. Mais à chaque fois qu'il ose un peu montrer ce qu'il est, il est attaqué. On demande une... on lui envoie une violence énorme parce qu'il se prolétarise, donc parce qu'il va vers le bas, et une violence énorme parce qu'il veut préparer littéralement quelque chose dont on sent que ce n'est pas dans l'air du temps. Et c'est une deuxième violence. Si j'avais tout de suite écrit un petit roman ou un roman un peu polar à la Philippe Jean qui était l'idole à l'époque... tout allait bien, c'est-à-dire que je rentrais dans le rang. Mais là, on sent bien que le môme, il veut tenter un coup politique d'écrire sa bassesse dans une langue autre. Et c'est cette disjonction, cette prétention, mais qui pour moi est l'évidence de la grandeur française, de vouloir synthétiser le haut et le bas, qui est inacceptable. Et c'est ce qui va très très vite être extrapolé à un autre niveau, ce que j'ai ressenti dans mon petit destin. Interdiction d'apparaître comme un mec du peuple, interdiction de rêver d'une littérature qui est encore sa vibration naturelle, c'est tout de suite ce qui va se passer sociologiquement et commercialement dans la France littéraire à partir des années 82-85, où on assiste à un retour au récit et toutes les vieilles lubies complètement éculées. Je veux dire, Mauroy et Duhamel seraient revenus à cette époque-là, ils étaient tranquilles, ils arrivaient avec leurs charentaises et leurs coussins, ils seraient installés dans les murs, il n'y avait pas de souci. Donc c'est aussi la fin d'une certaine violence politique, la fin des avant-gardes, la fin de l'espoir de l'ultra-gauche et du grand partage, puisque tout ça, ça se traduit au moment où j'écris par les attentats d'Action Directe qui fourmillent autour de moi. Et d'un seul coup, l'assomption de la littérature commerciale, dont mes beaux-parents, finalement, rêveraient que je fasse partie. Et cette jeune femme, elle veut quitter son milieu, et finalement, elle est très heureuse et très grisée, très apeurée, d'avoir mis la main sur une sorte de chien fou.
Et c'est aussi notamment pour cette raison qu'elle veut vivre une histoire d'amour, parce que Cœur volant est une histoire d'amour avec... on n'arrive pas au moment de la rencontre, on arrive à peu près un an après cette rencontre. Il y a rupture et il y a, pour la moitié du texte, volonté du narrateur de la reséduire et de revenir, enfin qu'elle revienne vers lui. Et à la fin, à nouveau, retour entre les deux amoureux, c'est-à-dire que c'est une ligne droite, ça y est, cette jeune fille est conquise pour la vie. Le narrateur, une fois conquis, elle le quitte et il doit à nouveau la séduire, il doit à nouveau buter contre l'enjeu social et familial de Natacha. Il y a cette très belle phrase. « Je vais trouver l'alambic familial où se distille la liqueur d'oubli, briser le col de cygne où bouillonne le filtre nécessaire à la névrose des orphelins. » Parce que tu imagines que le milieu, enfin, la famille de Natacha va tout faire pour qu'elle oublie son amoureux.
Oui, bon, il y avait beaucoup de paranoïa, parce que quand on est seul et faible et qu'on n'a aucun sol, on se sent toujours à merci. Vraiment à merci de n'importe quelle violence. Et c'est vrai que c'est une difficulté énorme pour une femme d'un certain milieu de donner toute son affection et donner tout son destin à un homme sans bien, sans tendresse sociale, c'est-à-dire qu'il lui donne une tendresse fabuleuse, il reconstitue pour elle à la fois, il est l'amant, il est la mère, parce que sa mère, à elle, est morte. Et lui, il lui donne une tendresse colossale qu'elle n'a jamais connue. Donc, cette espèce de Patrick Devers qui a l'air d'un chien fou et qui s'agresse avec tout le monde à l'extérieur, est un rempart et un homme d'énorme tendresse pour elle. Mais c'est un risque terrible pour elle, parce qu'elle a eu jusque-là que des hommes extrêmement apaisants, sûrs, des gens de l'école alsacienne avec qui elle peut se faire une vie bourgeoise fabuleuse dans le quartier des Invalides ou dans la rue Bonaparte. Et d'un seul coup, bah, c'est l'histoire de deux petits moineaux qui chacun abandonnent leur milieu pour créer autre chose. Et cette autre chose, c'est un territoire utopique qui est l'espoir d'une sorte de poésie commune. Et c'est pas la volonté... Elle a une très très grande exigence, elle ne veut absolument pas qu'il devienne un écrivain commun. Elle est d'une famille polonaise, mais elle a une sorte de langueur et de mélancolie slave chez elle. Et elle est irriguée des phrases de Mandelstam, de cette sorte de poésie. Et elle rêve que... Oui, elle rêve d'une certaine façon que ce garçon devienne poète à travers elle. C'est une sorte de rêve littéraire à deux. C'est très étrange, mais c'est ça l'histoire. C'est une femme qui devient écrivain à travers un homme et un homme qui devient écrivain à travers une femme. Et à la fin, on s'aperçoit de ça. C'est la question de la muse et de l'inspiration. C'est que c'est pas juste une griserie, une ivresse qui sort d'elle pour susciter les mots. C'est quasiment, de façon africaine et vaudou, un fluide que le jeune garçon peut récolter pour écrire et qu'il a par le contact direct. Une sorte de fonction poétique, thaumaturgique, vous voyez.
Parce que ce qui m'a préoccupé en lisant Cœur volant, c'est à quel point le narrateur était occupé à cette conquête de l'amour. C'était presque sa principale occupation, finalement, dans l'année ou les deux ans qui s'écoulent pendant Cœur volant. Cette préoccupation, c'était œuvre, écriture et amour, tout emmêlé en fait. Conquête de l'amour et conquête de l'écriture ne faisait qu'un. C'est l'impression que cela m'a fait.
Oui, c'est un enfant perdu de ces années-là, c'est-à-dire qu'il est... Il est perdu entre deux mondes, entre son passé, dans les cités, où il faisait partie d'une bande de petits voyous. Et lui, il s'est trouvé qu'il avait un petit don pour la parole et l'écriture, et que les profs l'ont repêché par hasard et l'ont envoyé dans les classes prépa. Et il arrive... Je pense qu'il est beaucoup trop affectif, beaucoup trop... il manque de lucidité, de cynisme et de... Il accepte la violence sociale et d'aller vers le plus dur, la prolétarisation, mais il ne supporte pas au quotidien la sanctuarisation des classes sociales. Donc en fait, il a peur de tout, d'une certaine façon. Il n'a peur de rien parce qu'il va au plus dur, mais il a peur des rapports humains et de la société au sens du lien quotidien. Ça l'insupporte. Parce qu'il voudrait une sorte de fusion sociale permanente. C'est très étrange, c'est une sorte de rêve phalanstérien. Et je pense qu'il est éminemment de gauche et il a peut-être un côté partageux, je ne sais pas. Mais il ne supporte pas les exactions sociales, donc ça n'a rien de neuf. Mais quand on les découvre, c'est pas du tout livresque. On peut pas avoir une lecture marxiste comme il avait à l'époque. Et quand on découvre les choses en vrai, c'est beaucoup plus dur. Et donc, pour cette femme, venir avec lui, c'est un risque colossal. Je sais plus quelle était la question.
C'était cette question du mélange pour le narrateur de l'œuvre et de l'amour, c'est-à-dire la manière dont est mélangé amour et début de création, et comment cette histoire d'amour va préoccuper à ce point le narrateur pour en faire son occupation principale.
Bon, il y a le fait aussi très naïf que quand on veut écrire à 20 ans, on s'imagine tout de suite écrire un livre de 1000 pages et sans avoir vécu, c'est-à-dire qu'on peut pas... Il y a un déficit de vécu pour organiser une fiction cohérente. Tout le monde n'est pas l'autre est amour, Rimbaud. Donc quand on n'a pas ce don-là, on se retrouve en porte-à-faux. Et la seule chose qui l'emplit complètement, son expérience littéraire majeure, c'est sa vie de prolétaire, son refus des hautes études, parce qu'il a vu que c'était qu'un guépier où la bourgeoisie se reproduisait, c'est un du Bourdieu vécu dans son sang, hein. c'était ça. Donc en fait, il n'écrit que de l'amour en direct, mais par là, il retrouve la veine lyrique classique et le secret le secret immuable de la poésie, qui est d'abord de chanter l'aimé, de chanter la beauté. Donc il y a quelque chose de très sentimental. Et ça, son rêve, c'est sans doute d'écrire tout de suite un livre qu'il appelle Le Déserteur, qui est un roman qui raconte sa fuite. Donc il écrit quasiment sa vie en direct. Il raconte sa fuite pour la transposition du narrateur dans ce roman qui est en cours. C'est l'histoire d'un aviateur qui quitte le combat pendant la guerre de 14 et qui prend les airs. Et alors, il lui fait prendre les airs, mais à un moment, il hésite tellement dans sa fiction parce qu'il a plus d'idées, qu'il n'a pas assez vécu, qu'il cherche quand même des ancrages dans sa vraie vie. Il laisse pendant des semaines et des semaines cet aviateur en l'air qui ne sait pas où atterrir. Il a sans doute plus d'essence, il va s'écraser. Et il voudrait finir ce roman. Et en fait, il s'aperçoit que toute la journée, il est obsédé par l'amour. Et il n'écrit que sur l'amour, il n'écrit que des lettres à Natacha. Et en fait, son style se construit dans l'offrande poétique permanente pour reconquérir Natacha. Et d'un seul coup, l'histoire de cœur volant, c'est l'histoire d'un amoureux qui bondit tout le temps, parce que c'est un mec qui a été champion de son hauteur et qui ne sait que sauter, toucher les enseignes de Paris, au lieu de se promener tranquillement avec raffinement. Mais il ne peut que écrire l'amour. Donc c'est une limite qui est magistralement belle, mais qui est extrêmement douloureuse aussi avec le recul, parce que... Je crois que c'est la perception aussi pour ce Picaro qu'il ne peut écrire que ce qu'il a vécu. C'est la question de la chronique qui très très vite apparaît chez lui, que la fiction pure, l'arbitraire narratif ne l'intéresse pas. Il a un aspect, c'est un petit païen des banlieues, mais il y a un aspect christique où on ne peut écrire que ce qu'on a vécu et souffert. Et donc ça, quand on ressent cette règle-là et qu'on ressent le besoin de se risquer dans toutes les classes et dans tous les langages, la question d'une narration dans un style simple, dans un monde simple, et dans une classe unique et dans un imaginaire fictionnel lui est interdite. Je pense qu'il vit sous la dictature du fait vrai et de la chose vue, sans être un réaliste. C'est ça aussi, c'est que bon, c'est un roman d'initiation, c'est l'histoire du narrateur de tous mes livres suivants. Ça s'emboîtera un jour dans des livres qui auront leur articulation logique, parce que ce sera le même narrateur. Là, c'est la naissance du narrateur de Chant furieux, ni plus ni moins. Il y a un effet d'emboîtement qui n'est pas dit et qui n'est pas présenté éditorialement pour l'instant.
Quand tu dis, Philippe, que l'imaginaire lui est interdit, l'imaginaire t'est interdit, est-ce un problème de classe sociale? Est-ce que c'est c'est un problème de la manière dont tu appréhendes la littérature. Pourquoi cet imaginaire est interdit? Pourquoi elle t'est interdite? Pourquoi très tôt, c'est ce jeune narrateur, elle lui est interdite? Pourquoi il n'y a pas une envie de l'imaginaire, de l'imagination, de cet usage de la pensée?
Ah non, l'usage, bon, il lit beaucoup de philo, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est, comment dire, il a été destiné à une carrière de grand sportif. Donc, pour lui, l'important, c'est la question de l'héroïsme et de l'affrontement. Il y a un aspect Sisyphe chez lui, il doit s'affronter à la matière. Il est prolétaire pour cette raison-là. Il y a un goût, c'est un matérialiste sans doute, il y a un goût pour l'affrontement à la matière et à l'aspect brut de la vie, et c'est la question de la gratuité, c'est-à-dire que dans le langage, vous parliez de la disposition poétique des paragraphes, c'est quelqu'un, pour revenir à la conception du langage, qui est comme Francis Ponge, qui est toujours dans la question de la motivation du langage, l'aspect du cratyle, rechercher une matière poétique qui soit ancrée plus ou moins dans la réalité des choses, trouver un langage qui soit toujours l'expression d'une frappe verbale la plus proche possible de la matière réelle. Et même philosophiquement, très vite, il y a un éloignement de l'arbitraire du signe. Tout ce qui paraît arbitraire me gêne. J'aime que l'imaginaire et la force et le jeu se mettent dans la mise en branle de la langue française, qui doit, elle, devenir une sorte de machine. Il faut réinventer la langue. Ma force imaginaire va dans la réinvention de la langue elle-même. Elle ne va pas dans l'invention des histoires. En fait, dans Cœur volant, il n'y a aucune histoire, soyons honnêtes. Il y a deux jeunes qui se rencontrent de milieux différents, et à un moment, parce que justement cette différence sociale est trop forte, la jeune femme en a marre. Et le gars, là, décide de la reconquérir. N'importe quel romancier d'aujourd'hui décidant d'écrire un roman avec ça, il en parle à son éditeur, lui dit: écoute, arrête, c'est trop faible, tu fais rien. Donc là, le livre, si je donne juste cet argument-là, il n'a aucun intérêt. Il tient pour d'autres raisons. C'est qu'il y a un imaginaire. Enfin, il y a, je l'espère, une explosion de la surface du langage qui fait que les choses simples prennent une autre vie. Je n'ai jamais accordé. J'ai adoré Jules Verne, mais c'est là où on diffère. La chose inventée ne me fascine pas. C'est pour ça que pendant une partie de ma vie, j'ai été photographe, que j'ai voulu être ébéniste, parce que je trouvais ça extraordinaire de réinventer une forme à partir du bois. Mais ce qui m'intéressait, c'était, moi, l'union, quasiment le coït des mains et de l'outil avec le bois. Donc je suis très archaïque avec ça, je suis une sorte de sculpteur africain, et j'entends que la matière, si c'est une idole bien sculptée, que la matière brute et simple puisse avoir une puissance supérieure, une puissance d'évocation mystique ou amoureuse, ou que la langue vibre sur elle-même, alors que ce n'est qu'une statuette de papier. Mais ce qui fait la valeur pour moi, c'est cette vibration supplémentaire, postérieure, qui n'arrive pas forcément, mais l'invention est dans ce surplus de la matière simple. Elle n'est pas Je n'ai jamais réussi à m'enchanter à des inventions. Je ne lis pas de science-fiction. Ça m'est absolument interdit. Je l'ai fait. Ça ne m'évoque absolument rien. Et voilà. Et j'aime aussi beaucoup la philo parce que j'aime le travail d'analyse abstraite et la découpe conceptuelle du réel. Mais le travail de l'écrivain, pour moi, justement, peut être d'inventer, sans doute, mais c'est une partie de la littérature que je ne goûte pas. Et je suis né à la littérature par des écrivains qui mettaient leur invention dans la langue et pas dans l'histoire. Je regarde Ferry pour une autre fois, qui pour moi est le grand chef-d'œuvre de Céline. On a vendu 600 exemplaires après-guerre. Il se passe rien. Il y a un garçon et son fils qui viennent demander un exemplaire autographe à Céline parce qu'il sent que la fin de la guerre est proche et qu'il va être assassiné. Et il y a quelques souvenirs qui reviennent, mais il ne se passe rien. Mais la langue, elle arrive à un niveau de vibration et d'invention où la langue raconte elle-même sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des histoires qui se racontent. C'est que d'un seul coup, toute la généalogie du français très moderne de l'époque et quasiment du XVIe siècle, qui vibre encore chez Céline, ça fait une dentelle mouvante superposée qui prend son envol et qui dépasse et la langue du moment et qui dépasse, c'est ce que dit Céline, toutes les petites histoires qu'il pourrait raconter, des histoires et des romans, il y en a plein les commissariats. Et Céline a toujours avoué son imaginaire nul. Donc pourquoi, bon, je ne suis pas célinien à 600%, mais pourquoi à un moment, un môme sent que l'aventure grandiose de l'invention va être la redécouverte de la langue et la réinvention de la langue. Voilà, c'est tout, c'est très limité. Et quand on écoute les grands moments de jazz, on s'aperçoit que c'est très souvent une variation sur un standard. Et le standard en soi, il est relativement faible. Et mais quand Charlie Parker ou Thelonious Monk le reprennent, le déstructurent, il y a un empilement aztèque de richesse sur le thème simple qui, moi, me fait rêver. Et voilà, après, c'est une déficience de ma part. Je n'arrive pas à rêver sur ce que j'appellerais l'invention pure parce que voilà, j'ai un vide mental à ce moment-là, tout s'arrête.
Et ça t'est revenu très tôt quand tu écrivais cette histoire d'aviateur qui ne savait plus poser son avion pendant la Première Guerre mondiale, qui était une fiction là où il y avait invention. Enfin, l'invention d'un imaginaire, on va dire, en tout cas, même s'il y a, c'est à base historique. Et en ratant cette écriture-là parce que tu étais dans ta séduction de Natacha et l'écriture se faisait plutôt comme volonté à nouveau de séduction de l'amour, c'est à partir de ce moment-là où tu as cessé toute envie d'imaginer de l'action à faire par des personnages, avoir une invention par l'imaginaire, qui est aussi une faculté humaine.
Ah oui. Je pense que cette faculté humaine a été tellement exercée, et tellement magistralement, et dans tous les sens, peut-être qu'elle est déjà asséchée culturellement. Pour moi, quand j'ai découvert les écrivains, elle s'est asséchée toute seule. Et c'est vrai que j'ai voulu inventer cette histoire-là pour faire sans doute l'écrivain, mais c'est ce que souvent dit Michon, il essaye d'inventer une histoire, puis après il s'arrête parce qu'il arrive juste à faire des petites sculptures pour essayer de faire vibrer le visage totalement immobile de l'ébène et qui est à un moment un surplus d'émotion et un surplus de voyage dans la chose immobile. Mais il y a un mouvement interne de la langue que j'ai découvert plus tard, et en lisant Ponge et en lisant Pour un Malherbe, sur la corde la plus tendue du lyrique, cette espèce, ce que j'aime dans le baroque, c'est ça, c'est créer une vibration fabuleuse sur un donné assez faible. Mais j'ai arrêté d'écrire cette histoire sur la guerre de 14 avec cet aviateur, et à un moment, c'est assez drôle, dans le roman, il est en l'air, il ne sait pas s'il a assez d'essence, s'il va s'écraser au Luxembourg ou en Italie ou en Angleterre. Et à un moment, c'est très drôle, c'est que ne sachant pas où il atterrit, c'est comme ça que le roman s'est arrêté de lui-même, j'ai commencé à décrire la lueur du soleil couchant sur les rivets de la carlingue de l'appareil. Donc à un moment, alors que le gars est dans les airs et qu'on attend dans la diégèse classique, qui est tout de suite une action d'atterrissage ou de sauvetage ou d'attaque par un avion allemand, moi, dans les airs, à 1000 mètres, avec le bruit de l'avion et le casque en cuir et les lunettes Hublot, je fais la description d'un rivet. C'est-à-dire que d'un seul coup, je fais un travail pongien en pleine guerre, et mon roman s'est arrêté sur un travail poétique hors du récit, qui a commencé à prendre 10 pages, et j'ai fait une description d'un poème dans les airs qui aurait pu s'appeler « Le rivet », alors que c'était la guerre des tranchées en dessous, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai vu mon impasse, et après j'ai très vite compris que c'était pas ça qui m'intéressait, et puis mes lectures, je passais mon temps à lire, j'ai compris que j'étais capable d'écrire sans doute un roman simple assez vite parce que j'avais du métier et que j'ai aussi, très bizarrement, venant des cités, une facilité à la fabulation, à la tchatch et un truc drôlatique que je peux avoir à l'oral et qui ne finit pas et je peux inventer plein de choses. Mais à l'écrit, ça prenait une autre dimension et je me suis... C'est une dimension tellement sacrée, je pense que sans doute... Il y a beaucoup d'humour sans doute dans ce que j'écris, ce qu'on me dit de jeu et d'ironie, mais je ne voulais pas jouer avec la littérature. Ça me paraissait un truc trop sérieux, et ce qui m'a intéressé, c'était d'un seul coup le langage, beaucoup plus que les petites fantaisies que moi je pouvais me permettre. Je me suis mis dans une sorte de respect logocratique du langage, et très vite, c'est vrai, quand j'ai lu les philosophes comme Jean-Baptiste Avicot, ce genre de personnages qui faisaient quand même toujours un historial du langage, j'ai été pris dans quelque chose qui avait rapport à la généalogie du langage, très très vite. et qui était lié sans doute au fait que j'étais né sur un sol vierge à Sarcelles, des cités où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de bibliothèque, pas de cimetière, et où l'avant-texte, qu'est-ce qu'il y avait avant, quelle était la vérité du monde avant ces villes sorties de rien, avant ce néant organisé, j'ai été obsédé par retrouver la richesse de l'avant. Je serais né dans un milieu petit bourgeois, dans des pavillons ou dans un contexte social, j'aurais eu naturellement envie de rêver, d'aller un peu plus loin. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il y avait avant, c'était l'excavation, ce qu'il y avait dans le sous-sol, les racines. Donc c'est vrai que très vite, Ponge m'a intéressé, et puis tout le travail de généalogie, et même Nietzsche m'a beaucoup intéressé. Donc très vite, j'ai fait un travail de recherche sur la structure racinaire du langage. Et plus j'avançais là-dedans, plus je suis rentré dans une histoire de la langue française qui m'intéressait pour elle-même, dont ensuite je me suis libéré en écrivant sur des choses plus personnelles comme les cyclistes ou Chant furieux. Mais ce que je fais au final, c'est toujours une histoire de l'interdiction de parler et une histoire de la langue française basse qui se réinvente dans ses racines anciennes. Donc seul roman que je fais, il ne s'intitule pas comme ça de façon pédante « Roman de la langue française », mais c'est l'itinéraire d'un bon à rien, d'un picaro, dans le haut de la société et le bas de la société. Mais le vrai roman, c'est pas la découverte des classes sociales ou la recherche ou la perte de l'argent, ce truc d'Alsacien. C'est toujours l'étrangeté de voir les gens, chacun installés comme dans les girons de l'enfer de Dante. Les hommes maudits, suivant leur péché, ont chacun leur petit logement et sont numérotés et punis suivant leur péché. Là, moi, j'aime voyager, et hélas, je ne vois souvent que des gens qui sont dans leur petit logement linguistique, suivant leur naissance, suivant leur classe sociale. Et à partir du moment où, pour moi, l'intérêt, c'était l'intérêt classique du Picaro depuis les romans espagnols, d'aller avec son petit miroir et ses deux yeux pour voir toutes les variations des langues de monde en monde, c'était ça la grande aventure pour moi, d'être le Jules Verne... non pas en ballon, mais en tennis velcro, qui passe de monde en monde et voit ses petits logements. Et c'est aussi toujours pour moi stupéfiant aujourd'hui d'être assigné dans des petits logements linguistiques. Et l'imaginaire, pour moi, est très simple, c'est d'aller de lieu en lieu et de recréer, comme j'aime le cyclisme, un tour de France de la langue française. Redonner tout le temps la mobilité et l'amplitude maximale à la langue française. Mon seul imaginaire, mon seul voyage, ma seule réalité, je crois que c'est celle-là. Et c'est une science-fiction, c'est-à-dire que je n'invente pas d'histoire, mais la grande science-fiction et le grand interdit aujourd'hui, c'est de recomposer la totalité de la langue française dans ses infra-parties, dans ses parties les plus basses, les plus anciennes, qui sont les plus réfutées aujourd'hui, et dans ses parties les plus aristocratiques et les plus grandioses, qui sont Saint-Simon et autres, qui sont aussi les deux parties réfutées. Parce que c'est quoi la littérature française depuis 1789 ? C'est, je crois, de façon très vite résumée, mais très violente, l'histoire d'une classe sociale qui a, plus que dans tous les pays d'Europe, je crois qu'il n'y a aucun autre exemple, mis toute sa force à éliminer le peuple. L'histoire de la bourgeoisie française, c'est des mini-révolutions et d'une violence, mais sidérale jusqu'à la commune, pour éliminer la vibration du verbe populaire et l'alali qui a toujours été mis sur Céline, même avant qu'il devienne antisémite, dont la violence qui s'est exercée sur le mort à crédit de Céline, est un fait historique, un alali qui n'a pas encore été vraiment analysé, qui a rendu Céline absolument fou. Et de l'autre côté, il y a une guerre à mort de la bourgeoisie qui doit masquer ses origines roturières contre la très haute littérature. Je veux parler de réellement de Saint-Simon et de cette frange de la littérature d'une excellence absolue. Et cette bourgeoisie au pouvoir, je considère vraiment que depuis deux siècles, elle se maintient, c'est elle qui tient l'édition. Rien n'a changé depuis les Illusions perdues de Balzac, où les éditeurs sont là, suivant aussi un processus où ils vont essayer de s'adapter à la démocratie et de dilapider ces deux forces extrêmes. C'est ça que je ressens le plus, et c'est pour ça que aujourd'hui je me bats encore... pour remettre en vie mes potes des cités qui avaient leur capacité d'invention la plus basse, et essayer aussi de faire de temps en temps des articles, refaire vivre Saint-Simon, qui pour moi est le plus grand écrivain français de toute l'histoire. Donc voilà, mon déficit d'imaginaire s'arrête devant la grandeur de tous les imaginaires qui sont simplement contenus dans le dictionnaire, sans doute.
Merci beaucoup, Philippe Bordas.
Merci.